Bureau des dépositions.
Herman de Toumont, bureau. Ah non, Marc.
Ne résistez pas.
Écoutez,
on a qu'à faire.
Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans un espace de recherche et de création en cours. Nous sommes réunis ce soir au Magasin des Horizons, qui est le Centre National d'Art Contemporain à Grenoble, et en direct de la radio R22 Tout Monde. Ce « nous » de « nous sommes réunis » comprend le Bureau des dépositions, c'est-à-dire 10 co-autrices et co-auteurs d'une œuvre qui s'appelle « Exercice de justice spéculative ». Cette œuvre se crée depuis février 2019 à Grenoble et se compose essentiellement de lettres que leurs auteurs et autrices adressent aux responsables des politiques migratoires et à une justice manquante. Ces lettres sont réécrites régulièrement, ce qui nous fait dire que notre œuvre est processuelle. Elles sont performées par leurs auteurs et leurs autrices sur scène, devant un public témoin. En mars 2019, les co-auteurs et co-autrices de cette œuvre ont commencé à co-œuvrer depuis une résidence, précisément au Magasin des Horizons. Et dans le même temps, deux des co-auteurs ont été expulsés du territoire français en raison de leur procédure de demande d'asile. Ces expulsions s'appellent aussi des transferts Dublin, donc vers le premier pays dans lequel ces personnes avaient laissé leurs empreintes digitales. Ces éloignements, ces expulsions, ont constitué des atteintes à notre œuvre et à nos capacités de créer. En effet, notre œuvre peut être créée et activée si et seulement si l'ensemble des 10 co-auteurs et co-autrices sont présents, physiquement, ensemble, pour à la fois écrire ces lettres et les performer. Notre œuvre repose notamment sur un contrat qui est un contrat d'indivision et de co-auctorialité. L'œuvre Bureau des dépositions et l'ensemble de ses co-auteurs et co-autrices ont donc un problème. Ce problème est généré par les politiques migratoires. Autour de ce problème, nous avons ouvert un séminaire de recherche qui circule entre le droit, l'art, les sciences sociales. Ce séminaire de recherche s'appelle « Œuvrer les limites du droit » et ce que vous entendez ce soir est la deuxième édition de ce séminaire qui se donne à entendre en public et qui se donne à entendre sur les ondes de la radio R22. C'est en septembre 2019 que ce séminaire a connu sa première édition. Nous étions alors au Lila, dans la banlieue parisienne, à un lieu pour respirer, avec la famille Restée étrangère, qui est un autre ensemble depuis l'art et qui se pose des questions des politiques migratoires. La seconde édition donc, de ce séminaire a eu lieu ces derniers jours à Grenoble et il a réuni plusieurs intervenants, notamment d'abord des étudiantes et étudiants du Master 2 en droit qui s'appelle « Histoire, pratique et théorie des droits de l'homme » de l'Université Grenoble-Alpes. Les étudiantes et les étudiants ont travaillé sur notre cas juridique, et notamment à la manière dont les co-autrices, co-auteurs du Bureau des dépositions peuvent se saisir d'outils juridiques, à la fois nationaux et internationaux, pour se défendre des attaques qu'ils et elles vivent. Ces derniers jours à Grenoble nous ont aussi permis de nous réunir avec Julien Serroussi, qui est chercheur en sciences sociales et qui travaille à la Cour pénale internationale à La Haye, aux Pays-Bas, avec le poète Franck Lebovici. Julien Serroussi et Franck Lebovici proposent aux juges de la Cour pénale internationale de nouvelles manières de traiter les faits, les preuves, les documents juridiques. Nous nous sommes réunis aussi avec Julie Von Esland, qui est juriste indépendante et qui est engagée dans une recherche qui s'appelle Caveat à Bruxelles. Julie se saisit des contrats comme des objets juridiques à partir desquels le droit peut être réapproprié, depuis notamment un point de vue relationnel, le contrat comme un lieu où nous pouvons mettre à découvert les relations qui sous-tendent les œuvres et aussi nos vies. L'ensemble de ces interventions et l'ensemble de ces séminaires nous apprennent, entre autres, que le droit est un ensemble plastique de pratiques, de cas, de jurisprudence, et que cet ensemble plastique peut se sculpter depuis les vies de chacune, de chacun, c'est-à-dire de n'importe qui, sans rapport hiérarchique d'expertise, Pas besoin ni d'être avocat, ni d'être juriste pour se saisir du droit qui traverse nos vies et pour tenter de le transformer. Le plateau de ce soir, ce plateau radio, durera 1h30. Une heure de discussion entre les co-autrices, co-auteurs du bureau des dépositions, Julie Van Esland, les étudiantes et étudiants en droit, Claire Astier également, qui est commissaire de l'œuvre à Marseille. Et puis 30 minutes seront ouvertes à un dialogue avec le public de ce plateau radio. Bienvenue dans cet espace de recherche et de création en cours.
Bonsoir, moi c'est donc Julie, merci Sarah pour l'introduction. On a pensé pour la première partie de cette émission de ce soir de partager, d'ouvrir et de rendre public un peu le processus de réflexion, de rédaction et de négociation du contrat des co-auteurs et co-autrices de l'œuvre qu'ils sont en train de créer. Parce qu'il y a une volonté quand même de décrire cette relation entre eux, parce que si on regarde le droit, c'est une œuvre collaborative, donc dans les faits, en tout cas, c'est quelque chose d'individu. Mais quand même, je crois que c'est important, c'est aussi un moment pour un peu mettre en perspective les relations que vous aviez. Et je crois que là, devant moi, j'ai une première maquette du contrat que vous aviez fait jusqu'à maintenant. Et on va peut-être commencer avec... Donc je vais essayer d'être un peu le maître de la cérémonie du contrat et de faire passer la parole à tout le monde autour de la table. Et je crois qu'on peut commencer, bien sûr, avec les parties du contrat, donc les co-auteurs de l'œuvre, qui sont tous là et qui vont se présenter. Peut-être on peut commencer par ici.
Donc moi, je me nomme Bangoura Moussa Ben, membre et co-auteur du bureau de déposition.
Merci. Moi, c'est Kouyaté Ousmane, je suis membre et co-auteur du bureau de déposition.
Mon nom est Marie Moreau, je suis co-autrice et membre du bureau des dépositions.
Moi, c'est Diallo Paté, je suis membre et co-auteur du bureau des dépositions.
Je m'appelle Mami Kaba, je suis co-auteur, membre exclusif du bureau des dépositions.
Bonsoir, mon nom est Diallo Madalou, je suis co-auteur et membre du bureau des dépositions.
Bonsoir, Diallo Agebou, membre et co-auteur du bureau des dépositions.
Bonsoir, et mon nom est Djagité Laïsori, co-auteur et membre du bureau des dépositions.
Bonsoir, moi, c'est Baldé Mamad Djouldé, membre et co-auteur du bureau des dépositions.
Rebonsoir, Sarah Mekdjian, co-autrice du bureau des dépositions.
Voilà, ils sont tous là. C'est déjà un bon début pour la rédaction du contrat. Après, je crois que on va un peu parcourir tous les différents éléments du contrat qui sont essentiels, les autres peut-être pas tellement essentiels, mais duquel on pense que c'est quand même important qu'ils figurent dans le contrat. Et je crois qu'après avoir tous les co-auteurs, avoir cité tous les co-auteurs, ils se sont présentés, je crois qu'on on arrive à un point quand même important, c'est-à-dire l'objet du contrat. Et on parle des co-auteurs. Je vais peut-être poser la question, de quoi vous êtes co-auteur, quel est l'objet du contrat. Est-ce que dans le contrat, est-ce qu'on veut parler d'une définition de cette œuvre? Parce que vous dites que c'est une œuvre immatérielle, processuelle. Est-ce qu'on peut arriver à le définir, à le décrire? Ou est-ce que ce contrat va se définir ou aura comme objet plutôt la description de votre relation? C'est-à-dire comment vous voulez travailler ensemble, comment après, comment vous voulez décider sur la mise en action de l'œuvre, peut-être la reproduction, la communication. Donc ça, c'est une première question, l'objet du contrat. Est-ce que c'est une définition de l'œuvre ou est-ce que c'est plutôt la description des relations entre vous?
Rebonsoir, je m'appelle Mami Kaba, comme je l'ai dit, et je suis co-auteur et membre du bureau de déposition. Et en amont, le contrat peut être stipulé en plusieurs catégories. Et en ce qui concerne le bureau de déposition et ses membres exclusifs et co-auteurs, Nous avons déjà un contrat préalable qui stipule le fait quoi, ce contrat de relation qui exige à ce qu'on soit ensemble et à ce qu'on partage nos idéologies ensemble. Et moi, je pense que dans l'élaboration de nos contrats à titre d'être ensemble et de co-écrire ensemble, c'est-à-dire que nos contrats doivent se stipuler en double tranchant. Comment élaborer dans nos contrats à amener, par exemple, les outsiders en insiders, c'est-à-dire comment amener les obligations qu'on s'est signées les uns envers les autres à amener les outsiders à être des insiders. Je peux prendre l'exemple sur le cadre juridique. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut élaborer un contrat, nous, co-auteurs et membres du bureau de déposition, à aller dans les sphères juridiques, par exemple. Et comment est-ce qu'on peut élaborer, en fait, quoi. Donc, notre contrat se stipule en des positionnements en double face. C'est-à-dire, entre nous, co-auteurs, qui nous engagent à coécrire ensemble, à coexister ensemble, et dans un deuxième temps, à amener le contrat, à prévaloir le contrat devant d'autres sphères du champ de la justice, du champ de la recherche et autres, comme avec vous, par exemple. Si on réussit, par exemple, à signer un contrat avec la Belgique dans le cadre du CAVIA, par exemple, donc ça va être, par exemple, un contrat de relation, par exemple, qui va coexister, en fait, quoi. Donc déjà, en amont, on s'est signé de s'engager ensemble, de coexister ensemble, mais comment pallier cette coexistence avec les sphères juridiques, et etc. Merci.
Je crois que là, j'entends aussi... Tu parles de ce que c'est, en fait, le bureau des dépositions. Donc, c'est quelque chose que vous créez ensemble. Et il faut aussi que vous êtes tous là au moment de créer, que c'est quelque chose qui est vraiment important. Mais de l'autre côté, j'entends aussi plutôt quelque chose qui est comme un but collectif du projet, c'est-à-dire d'amener aussi d'autres et d'ouvrir les problématiques ou les questions auxquelles vous vous adressez par la création de cette œuvre. Et je crois que ça, c'est peut-être pas vraiment objet du contrat dans le sens juridique technique, mais je crois que ça fait du sens d'intégrer ce genre de réflexion et d'idées aussi dans le contrat, parce que ça va aider à, parce qu'un contrat c'est important parce que ça, disons que ça assure en quelque sorte les obligations et ça formalise les relations, mais de l'autre côté c'est aussi important parce que ça peut clarifier les intentions des parties qui sont dans le contrat, c'est-à-dire que si après le contrat il sera interprété par des gens qui sont en dehors du projet, que ce genre de réflexion, ce genre d'information peut aider à l'interprétation et aussi à établir des relations avec des gens qui sont en dehors du projet. C'est-à-dire que si vous arrivez à expliquer quel est le but collectif de la création de cette œuvre, ça peut ouvrir le dialogue. Et je crois qu'hier, on a déjà parlé aussi avec les étudiants du droit fondamental, et peut-être on peut en retourner après, parce que je crois que aussi tout ce qu'eux, ils apportent à, disons, à ce séminaire, ça pourrait être intégré comme information dans le contrat, parce que là, il y a beaucoup de droits de liberté fondamentale sur lesquels vous réfléchissez dans le cadre du projet. Donc, l'objet du contrat, je crois, d'une part, l'œuvre, d'autre part, les relations. Mais je ne sais pas, Sarah, peut-être tu veux encore dire quelque chose sur...
Non, c'était pour dire que quand tu formules la question du but, moi je n'arrive à me formuler qu'un point de départ. Je n'arrive pas à me formuler un but. Le point de départ, c'est nos coexistences qui sont déjà là. On est coprésents et à certains moments, cette coprésence a été empêchée par des expulsions. Et à partir de cette coprésence, nous témoignons, nous écrivons, nous mettons nos présences physiques ensemble. Et l'œuvre s'élabore de manière processuelle à chaque moment de résidence, à chaque moment du, En public, au moment du séminaire « Œuvrer les limites du droit », notre œuvre se co-élabore depuis un commun. Et j'arrive plus à formuler comme si ce contrat ne savait pas vers quoi il tendait, mais plutôt que déjà on puisse dire notre point de départ. Et notre point de départ, c'est une égalité. On est à égalité malgré nos statuts administratifs différents. Cette égalité, c'est le fait que nous sommes toutes co-autrices et co-auteurs. C'est le fait que nous avons tous l'intention et le désir d'être ensemble pour œuvrer. Mais par contre, je ne sais pas quel est le but de l'œuvre, si ce n'est nous maintenir ensemble déjà. Mais ça revient au point de départ. Donc il y a une espèce de ligne de fuite qui est peut-être un point de départ qui n'arrête pas de partir, mais qui ne sait pas tellement où il va.
Il y a peut-être quand même un élément important qui est que il y a cette coprésence qui, en fait, nous permet d'être actés au niveau légal par le droit d'auteur, puisqu'on a le droit d'être auteur, là, tous. Et en ayant le droit d'être auteur ensemble, on a donc aussi le droit d'avoir de générer une économie qui a un format juridique légal. C'est-à-dire que l'économie qui est produite par la recherche et la création du bureau des dépositions, elle nous est reversée légalement, quoi. Ça, c'est un point qui est important. Puis il y a un autre point, en fait, et c'est pour ça qu'on a appelé notre première œuvre exercice de justice spéculative. C'est parce qu'en fait, dans les lettres de déposition qu'on a écrites, en fait, il était toujours question des violences produites par les politiques migratoires. Et pour échapper à une sorte de plainte ou de plainte et sortir du régime un peu moral ou de la charité, on s'est mis à adresser ces lettres à des gens qu'on pense être responsables des violences produites par les politiques migratoires. Et en fait, en faisant cet acte-là, on a ensuite rebattu les lettres de déposition et on s'est dit, mais en fait, ces lettres, il faudrait qu'on aille plus loin. Ça n'est pas qu'un bureau des dépositions où on écrit des lettres et on produit des corpus de lettres éditées, etc. On a pensé que peut-être on pouvait performer quelque chose d'une sorte de justice qui nous manquait. Et en premier, on a commencé à adresser notre travail de demande de justice aux responsables des politiques migratoires. En fait, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas, parce qu'en fait, ils étaient dans leurs droits, donc on n'arrivait pas à faire cette opération-là. Mais on a repensé à un travail une œuvre qui nous travaille depuis longtemps, qui est vraiment aussi un membre fantôme de notre co-auctorial, enfin, de tout notre processus, c'est une œuvre qui s'appelle XY Plaidoirie pour une jurisprudence, qui est une œuvre qui a été initiée par Patrick Bernier et Olive Martin, et qui est en fait une sorte de fiction devant une cour d'un cas de deux co-auteurs, un co-auteur résident français et un co-auteur soumis à la demande d'asile, et où en fait la plaidoirie de l'avocate est de dire peut-être que le droit d'auteur est plus hospitalier, même si le terme est un peu gênant, est plus hospitalier que le droit des réfugiés. Donc nous, on s'est dit, en fait, il faut qu'on repasse par ce chemin-là pour dire, en fait, notre œuvre, exercice de justice spéculative, pourrait articuler toutes les lettres de déposition depuis ce postulat qui est que, en fait, nous sommes co-auteurs et nous serons potentiellement un jour amenés à dire au juge, il y a ne nous observez pas que par rapport au droit, par rapport au droit des réfugiés.
Mais Marie, qu'est-ce qui nous a permis, par exemple, de constituer ces pièces à conviction, qu'on appelle en fait les lettres de déposition? C'est pourquoi il est important de souligner que par ailleurs, le contrat, il fait partie au fait d'une entité académique dans le droit, donc spécifiquement qu'on appelle le droit des contrats, et qu'à l'origine, en fait, il était important aussi de voir du lundi jusqu'à ce mercredi, les jours qu'on a passés, qu'est-ce qui a nourri le bureau de déposition? Comment est-ce qu'on peut placer le bureau de déposition dans des contrats historiquement approuvée, par exemple. Donc, il savait que ce que tu expliques là, du fait qu'on se voit, qu'on notre coprésence physique existe. Donc, pour moi, ça se classifie, en fait, dans la théorie des contrats relationnels qu'a expérimenté déjà un Américain, que donc Julie nous a expliqué, qui détermine, en fait, quoi, des normes. Parce qu'on a des normes. Il faudrait qu'on soit ensemble. Il faudrait qu'on partage ensemble. Il faudrait qu'on écrive ensemble. Et que par ailleurs aussi, dans nos contrats qu'on détermine aussi avec les instituts d'art comme Aix-en-Provence, pardonnez-moi, comme l'Hexagone de Meilan, de dire que ouais, l'œuvre n'est pas fictionnelle, donc ça c'est un contrat d'avertissement. De dire que l'œuvre est authentique parce que nos corps font partie en fait, de l'œuvre, donc nos corps coexistent et ils sont présents. Donc ça nous permet par exemple de situer qu'aujourd'hui, que ouais, le bureau de déposition se trouve dans ce type de contrat aujourd'hui relationnel et d'avertissement qui, par exemple, on sollicite que les collectionneurs achètent notre œuvre au même titre que les autres œuvres dans le champ de l'art vivant ou dans d'autres champs. Donc il est vraiment question de mettre ça aussi en lumière. Dans quel sillage le fait que le bureau de déposition se situe aujourd'hui dans le contrat qu'on va signer en culturalité, parce que je sais qu'on est tout le temps en culturalité. On est en culturalité avec la radio Erwin de tout le monde. On est en culturalité avec le magasin des Horizons. On est en culturalité avec l'ensemble 1. On est en culturalité avec Espace de Vichyama. Donc apparemment qu'on est tout le temps en culturalité. Et comment est-ce que...
Alors je suis claire et je vais faire la note contextuelle de bas de page. Pardon d'avoir interrompu mamie. L'Hexagone, c'est la scène de Meilan où le 21 février, c'est-à-dire vendredi soir, il y aura l'œuvre Bureau des dépositions qui sera performée. Et donc c'est le lieu avec lequel vous contractualisez et vous cédez vos droits d'auteur pour la soirée. Et l'ensemble 1, c'est un autre ensemble avec lequel vous êtes en co-création pour une création en septembre 2020 à Bordeaux, non, aux Francophonies, pardon.
Voilà, merci. Donc, c'était ça, en fait, quoi, de vraiment contextualiser, en fait, quoi, cette historique d'où l'on peut placer le bureau de déposition aujourd'hui.
Mais tu le fais très bien. donc, je crois qu'on revient un peu là sur ce qu'on a effectivement discuté hier, ce qui est l'idée que aujourd'hui, c'est très difficile d'avoir des contrats complets et donc que c'est peut-être plus intéressant de passer notre temps à créer un accord cadre qui vous permet de travailler ensemble et de décider d'une façon partagée et donc de définir des normes, peut-être comme tu dis aussi Sarah, un point de départ, un préambule qui raconte un peu comment ça se fait que vous êtes là maintenant aujourd'hui tous ensemble à créer cette œuvre, ce qui va vous permettre d'une part de revenir vers ce document au moment que vous pensez devoir prendre des décisions ou rentrer dans des relations avec des institutions, peut-être des collectionneurs, mais comme ça au moins vous auriez une relation qui soit claire et négociée pour et par vous tous.
Oui.
Peut-être pour compléter par rapport à la question qui revient sur la permission, qu'est-ce qui permet, tout en sachant que là, on a une catégorie des personnes qui ne sont pas forcément traitées de la même manière juridiquement, mais on va plutôt voir la question sur l'angle des droits fondamentaux. Et donc là, peut-être avant d'aborder ce que je vais dire, je vais passer la parole à Harbert pour rappeler un peu c'est quoi les droits fondamentaux et qu'est-ce que ça garantit en fait et qui donne la voix à pouvoir parler de tout ce qui concerne les contrats et la liberté en fait sur lesquels est basée toute l'action du bureau des dépositions.
Merci Merve. Sur la définition de droits fondamentaux, les libertés fondamentales ou droits fondamentaux représentent juridiquement l'ensemble de droits ou libertés essentielles pour l'individu, assurés dans un état de droit où elles recouvrent en partie les droits de l'homme au sens large. Ils sont des droits inhérents à l'être humain. Dans la doctrine juridique, le concept est relativement récent et il existe plusieurs façons d'appréhender la fondamentalité d'un droit ou d'une liberté. L'idée même de fondamentalité revient à prioriser ou hiérarchiser les droits ou les libertés en fonction de leur essentialité. La définition reste plutôt subjective, en fait. Il n'y a pas une définition commune concernant qu'est-ce que sont les droits fondamentaux. sur la question comment nous sommes protégés par ces droits. Nous sommes protégés au niveau étatique, par les lois, par exemple par les lois en vigueur sur les droits de l'homme. Au niveau régional, on a le CEDH, et aussi au niveau international, par exemple la Convention de Genève sur les statut de réfugié et aussi déclaration universelle des droits de l'homme. La Convention de Genève, c'est un texte de droit international qui définit à la fois qu'est-ce que c'est un réfugié, quels sont les droits et enfin quelles sont les obligations des États signataires à son égard. On trouve dans cette convention l'article 14 qui est très intéressant, qui nous dit la propriété intellectuelle et industrielle en matière de protection de la propriété industrielle, notamment d'invention, dessin, modèle, marque de fabrique, normes commerciales et en matière de protection de la propriété littéraire, artistique et scientifique, tout réfugié bénéficiera dans le pays où il a sa résidence habituelle de la protection qui est accordée aux nationaux du pays dans lequel il a sa résidence habituelle. Donc, c'est presque tout.
Bonjour. Dans justement ce que vient d'évoquer Herbert, on a deux mécanismes au niveau du droit international qui permettent la protection notamment de ces droits fondamentaux et notamment un pacte qui s'appelle le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, donc qui a été signé et ratifié par la France et qui énonce notamment dans son article 6, paragraphe 1, que les États parties reconnaissent le droit au travail, qui comprend le droit à toute personne d'obtenir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement choisi ou accepté, et qui devront prendre des mesures appropriées, pour sauvegarder ce droit. Donc, je vais laisser Merveille apporter plus de précisions sur ce pacte et sur ce droit au travail.
Ok, merci Carla. Donc, du coup, pour compléter. Sur le plan international exactement, on a plusieurs instruments juridiques qui fondent en fait tout ce qui est comme action derrière moi je prends le cas du bureau des dépositions et derrière en fait dans ces pactes il y a des obligations que les États doivent porter et là il n'y a pas de catégorie selon qu'on est demandeur d'asile ou qu'on soit migrant en situation irrégulière ou pas. Les droits, ils sont accordés à tout le monde et l'effort des États serait plutôt de mettre en place des mesures qui ne sont pas rétrogrades, en fait. Et donc là, on est devant une situation où, en tant que demandeur d'asile, le travail de création artistique, je vais dire, il est un peu dérangé, quoi. C'est le mot que j'ai trouvé. Et derrière, il y a aussi cette nécessité pour les États de pouvoir mettre en place des mesures qui gèrent en fait au cas par cas les situations. Et donc là, il faudra aussi souligner que dans le cas par exemple du bureau des dépositions, c'est une protection particulière qui est demandée. Et bon, sur le constat, malheureusement, il n'y a pas vraiment une situation particulière qui permet de prendre en charge ces cas. Et je ne sais pas si Jade a un complément à faire. Non.
Ok, bon, donc du coup, si les étudiants du Master 2 ont terminé, donc on vous propose une pause de 5 minutes et après on va transiter directement sur la deuxième partie. Merci. It's Kelpie Vibes.
Tell you, another story. 1960, then they play us, why, oh? Shall we go to cry forevermore? It depends on me, Gaga. It depends on me, Gaga. It depends on me, Gaga. It depends on you, Gaga. Well, it depends on me, Gaga. It depends on me, Gaga. We all enter one corner, shape you. Cause it be light and they tell me since I was a baby, you. All the time they go promise and fail you. You don't
Sante with the slim that they shade you. They wanna tell you, tell you, tell you. Another story, story, story. Since 1960, then they play us, why, oh. Which kind of country be this? Charlie, I come. Sometimes after they move away, maybe a month, more or less, more yawa. Less people power. Same shit, Ghana, Niger, Mantaya. Stuck in traffic at the heat delay. Big man get the motorcade. Big Benz and the Escalade. Hustle just the Escalade. But March 6th, we go celebrate. Every year be the same cock and boot. Propaganda, you they push, no they poop. Hear the pain, people tired for this matter. Every day for thief man, one day for massa. If you need fear, mean to me, Fimo. I'm gonna say, ah, you need a Timo. Ashimi, 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 Fimo. They wanna tell you, tell you, tell you. Another story, story, story. Since 1960, then they play us, why, oh.
Bonsoir et rebonsoir pour celles et ceux qui nous rejoignent sur le plateau. On va entrer dans la deuxième partie. Et avant de continuer, pour les personnes présentes avec nous ce soir, nous voulons vous proposer quand même dans ce format un peu dense de recherche, si vous aviez des ou une question pour raccrocher ou pour rester avec nous dans le flux de cette pensée, avant de reprendre le plan qui avait été prévu au préalable.
Ça marche pas. Si. Ah bon, d'accord. Je me demandais juste s'il y avait une jurisprudence, s'il y avait eu déjà un cas d'espèce, de collectif ou d'individu qui avait réussi à se protéger en adoptant le même procédé de rusé avec le droit d'auteur et la question des droits plus généraux. Un précédent.
Merci.
Moi, je veux bien répondre. En fait, à notre connaissance, il n'y a pas de jurisprudence qui reconnaît l'importance notamment de la coauctorialité à l'endroit où le droit des étrangers, le droit d'asile expulse. Par contre, il y a de nombreux jugements où individuellement, le fait qu'une personne soit partie prenante d'une activité de création soit reconnue comme un facteur qui lie cette personne au territoire, mais sans que cette activité ne suffise à le ou la régulariser. Donc ici, nous, on s'appuie plutôt sur une jurisprudence et une plaidoirie fictionnelle, qui est l'œuvre dont a parlé Marie tout à l'heure, qui s'appelle X et Y contre préfet 2, plaidoirie pour une jurisprudence. On s'appuie aussi sur quelque chose qui n'est pas qu'une ruse, mais qui est la réalité de nos liens. Et effectivement, nous en appelons, à la suite de Sylvia Proslosinot et Sébastien Canvec, qui sont les deux avocats qui performent la plaidoirie fictionnelle, nous en appelons au pouvoir créateur des juges. Et nous en appelons à travailler avec les magistrats pour constater qu'il y a un manque de justice, qu'il y a un vide de justice, ou même parfois qu'il y a une justice nationale qui est confrontée aux droits de l'homme. Par exemple, la France a été condamnée plusieurs fois par la Cour européenne des droits de l'homme pour traitement jugé dégradant de personnes dites migrantes. Et ça, c'est une jurisprudence sur laquelle on peut s'appuyer. Mais notre cas, pour l'instant, à notre connaissance, n'a pas de précédent réel, n'a un précédent que fictionnel.
Pour revenir un peu à la question que vous avez posée,
Tout à l'heure, on parlait des relations qui existent entre les co-auteurs et aussi du but qu'on visait, tout ça. Au fait, c'est quelque chose de très compliqué. C'est comme on le dit chez nous en polar, c'est quelque chose qui commence par terre. Donc, c'est des gens qui se retrouvent, des gens ayant vécu des histoires, ayant vécu des moments qui nous ont beaucoup, beaucoup marqués. Donc, on se retrouve par rapport à ce qu'on voit, par rapport à ce qu'on a vécu et par rapport surtout à ce qu'on vit. Donc, on fait des écrits où ça nous permet d'expliquer un peu comment on se sent, qu'est-ce qu'on traverse et qu'est-ce qu'on attendait une fois avoir traversé cette Méditerranée et tout ça. Mais il y a une différence aussi entre ce qui se dit et ce qui est. C'est-à-dire, il y a des textes qui sont là, qui parlent de l'immigration, qui parlent des droits de l'homme et tout ça. Mais il y a une différence entre ces textes et ce qui est. Une fois, on a assisté à une conférence ici à la fac avec des étudiants en droit et une représentante de l'Union européenne. Donc, on a expliqué qu'il faisait rapport un peu au droit de travail pour les demandeurs d'asile. Donc, entre nous, co-auteurs, ce qui fait qu'on a ce contrat entre nous, parce qu'on se dit, une fois qu'il y a, par exemple, moi, par rapport à mes démarches administratives, que j'ai des contraintes qui m'empêchent de continuer avec le groupe, que ce soit des occupations ou bien des mesures d'éloignement qui ont été prises par les autorités administratives. Donc là, ça joue sur l'œuvre. Donc il y a quelqu'un qui a quitté. Donc on vous a tout à l'heure dit qu'on a déjà deux personnes qui ont été expulsées de la France. Donc ça nous gêne. Mais jusque-là, quand même, comme Sarah l'a dit, on ne pense pas connaître des gens qui ont réussi à se maintenir ou bien à se régulariser de telle sorte. Mais c'est ce que nous, on veut essayer de changer.
Je vais apporter une précision sur ta question, monsieur. Et il était question de savoir s'il y a une jurisprudence autour de ce que nous faisions. Sarah t'a répondu en disant qu'il n'y a pas encore de jurisprudence. Mais il y a un stagiaire de Sarah qui s'appelle Antonella qui m'a amené un document qui parle au fait que deux personnes qui ont signé un contrat de co-auteurialité dans la mesure où l'un a dit qu'il confie la prise de photos, des séances de photographie. Et il s'avère que quand ils ont signé ce contrat, que ce monsieur qui se prenait en photo a changé au fait que la personne qui le prenait en photo, donc il a contacté une autre personne qui devrait assurer la séance de photo. Et la personne qui prenait la séance de photo en amont a tenté une action en justice en disant qu'ils ont signé en co-auteurialité le fait de se prendre en photo cette séance. Et du coup, il n'y a pas de jurisprudence, mais des commentaires que les juges et des organes juridiques qui commentent et qui essaient d'apporter de la lumière, qui essaient d'apporter de la clarification, même si ce n'est pas une jurisprudence, mais ça constitue quand même des preuves qui peuvent amener des juges à se pencher sur cette thématique. Voilà.
D'accord. Merci, Mamie. Je crois que la question elle est répondue. Est-ce qu'il y a eu un précédent? Non. Voilà. Ce que je vous propose maintenant, c'est de continuer avec la deuxième partie. On a eu des échanges pendant 3 jours, je crois, avec des spécialistes, des juristes, et voilà. Donc maintenant, nous allons essayer de faire une rétrospective sur ce qu'on a fait ce lundi dernier. Notamment, nous allons commencer avec les pratiques de Julien Seroussi et Franck Valenonski, son nom.
Non, Franck, voilà. Franck Lebovici.
Allez, répétez s'il vous plaît.
Julien Seroussi et Franck Lebovici.
Voilà. Julien Seroussi et Franck Lebovici.
Ousmane,
vous avez compris, du coup, est-ce que s'il y a quelqu'un qui veut réagir par rapport à ce qu'on a essayé d'échanger lundi dernier avec M. Seroussi, voilà, donc on vous passe la parole pour qu'on puisse avancer un tout petit peu.
Alors, juste pour préciser, en fait, ce qu'on propose là, c'est de reprendre de débattre ensemble. Depuis ce séminaire où on a donc découvert le travail de Julien Serroussier et Franck Lebovici, qui travaillent au tribunal de La Haye, comme le disait Sarah Mégjean tout à l'heure, et aussi hier matin à la clinique du droit où les étudiants sont là, et l'après-midi l'intervention de Julie Van Esland sur les contrats. Comment ces trois temps de réflexion, de découverte de leurs pratiques, nous ont amené peut-être, nous, un nous large, hein, c'est pas que nous tous et toutes, à déplacer et à repenser notre désir de création ou d'action, ou, voilà. Et notre regard donc, sur les œuvres et sur l'œuvre Bureau des dépositions. Donc on embrasse tout.
Oui, c'est simultanément, de façon simultanée, c'est ça ?
Simultanément. Peut-être je peux juste te dire, pour faire un lien par rapport à cette question des précédents, qui est une question qui nous anime beaucoup, parce qu'en fait, effectivement, on a besoin de trouver des précédents, et quelque part, ce qu'on est en train de faire par cette sorte de méta-clinique du droit qui vient se présenter dans les séminaires œuvrer les limites du droit, c'est aussi de chercher avec des chercheurs, des étudiants, des éléments qui pourraient servir à la requête de notre avocate, mais qui en fait aussi sont en train de transformer notre rapport à la pratique, à l'œuvre qu'on est en train de, enfin, à l'imaginaire qu'on a de l'œuvre qu'on fait. Au sens où, par exemple, pour faire le lien avec ce que nous ont appris Julien Serroussier et Franck Lebovici, c'est qu'en fait, eux, ils ne créent pas des œuvres pour un public qui n'aurait rien à voir avec ces œuvres. Ils vont à l'endroit où un public est concerné par la modélisation d'une œuvre. Donc un public usagé, en fait. Et en fait, le public de leur œuvre, c'est le parquet, c'est les juges du tribunal de La Haye. Et ça pose une question politique, en fait, qui peut être renvoyée à plein de champs, qui est, en fait, à quoi servent les œuvres du capitalisme marchand art, mais aussi du capitalisme cognitif, de la recherche, par exemple. Et donc, qui s'en sert? Qui sont les publics de ces éléments? Et quelque part, ça rebondit encore avec notre problème de coauctorialité et de mise en partage des œuvres et de protection de nos liens. C'est qu'en fait, c'est aussi pour ça qu'on a l'air tous très confus. C'est qu'on, nous, on ne sait pas très bien. Est-ce qu'il y aurait un but? Peut-être qu'il y aurait un but. Ce serait que les œuvres concrètes soient des sortes de continuum de coauctorialité qui permettent de transformer la vie pour que les violences et les toxicités à l'œuvre se dégage, quoi. Bon, je deviens complètement
prêtresse
idéaliste, en fait.
Marie, je te suis, mais je rends un peu plus concret. Ah, pardon. Par exemple, quand Julie parlait du contrat, nous on l'imaginait jusqu'à présent comme un objet qui nous permette finalement d'avoir notre dû face à quelqu'un qui nous le devait, c'est-à-dire la personne à qui sont cédés les droits d'auteur. Et pour revenir à ce que tu disais, qui se sert des œuvres et comment. Hier, on a appris, par exemple, que dans un contrat, on pouvait mettre, par exemple, des éléments de l'ordre des comportements, de l'ordre de l'écologie des pratiques qu'on pouvait avoir avec les personnes qui nous entouraient dans ce travail-là, par exemple, le diffuseur, par exemple, les communicants qui sont autour. Et en gros, le contrat, tout à coup, s'ouvre et devient un espace dans lequel il est possible de constituer une assemblée de personnes concernées par l'œuvre, mais aussi par tout ce qu'il y a autour, les problèmes qu'elle peut rencontrer, les obstacles et son futur, en fait. Donc, finalement, à quoi servent les œuvres et comment les contractualiser? On peut aussi aller dans ce sens-là, peut-être à constituer des assemblées de défendeurs.
Dans ce cas, je vous réponds. Ce que vous venez de dire, c'est vrai. Et dans cette œuvre, on peut des fois se rencontrer des moments très difficiles ou des obstacles ou machin. Mais on dit que dans la vie, le plus difficile, comment dirais-je, c'est de se taire alors que tu as un problème qui te fait mal. Et comment est-ce qu'on le dit? On le dit dans notre langue. Wata suɗu na unarema hande yeba c'est ça la wol gol. Cela veut dire que quand tu es malade, il ne faut pas te cacher. Il faut aller chez le médecin, tu le déclares avant que la maladie soit grave. Et tout simplement, moi, ce que je veux dire, le bureau de déposition, c'est une manière de s'exprimer, c'est une manière de paix, c'est une manière de l'art qui nous permet de se représenter en face les gens pas simples des migrants ou des demandeurs d'asile. Et aussi, c'est un lieu de recherche et c'est un lieu de vie aussi. Et tout simplement, ce qu'on écrit et ce qu'on fait, c'est quelque chose qu'on a vécu en fait. Si je prends un exemple aujourd'hui en France, je peux dire que la majorité en France sont concernés. Et comment ils sont concernés le cas de l'immigration. Tout le monde se demande, mais pourquoi les gens viennent? Pourquoi les gens viennent? Pourquoi toute cette vague migratoire qui traverse l'océan et qui vient en France ici? Et il y a certains qui connaissent la vérité, il y a certains aussi qui n'arrivent pas à comprendre. Dans ce cas, en écrivant, en faisant des lettres, en diffusant dans les radios, comme le radio R22 Tout le Monde, ça permet à certains citoyens français de savoir la réalité, la vérité. Démaxer les choses. Moi, je n'ai pas beaucoup de choses à dire en fait.
Merci.
Ouais, merci. Je vous remercie.
Mais c'est gentil. Pour revenir au fait quoi de ce séminaire plateau radio depuis le lundi à mercredi. Et donc quand on récapitule de l'ensemble de toutes les personnes extérieures qui ont intervenu. Et donc par exemple quand je prends Julien Sirossi qui par exemple est un sociologue mais qui s'est fait inviter au sein d'une entité juridique qu'on appelle la CPI. Donc il a son projet. Donc c'est un projet pluridisciplinaire. Donc ça m'a fait penser immédiatement au bureau de position, à toutes ces thématiques d'alliance. Donc ça veut dire que Julien Sirossi, en tant que sociologue, a tissé une alliance avec une instance juridique. Donc comment est-ce que le bureau de déposition, dans l'élaboration de nos contrats, on peut essayer de créer des alliances en fait, quoi, parce que moi, c'est dans le déroulé en fait, quoi, de Julien Sirossi qui, par exemple, qui l'a permis de soulever des thématiques. Quand tu nous as parlé du Congo, que les juges n'ont pas réussi à mettre ensemble toutes les preuves, les petits détails qui constituent au fait quoi le jugement qui doit se faire. Donc il a fallu que la CPI invite au fait quoi des sociologues à aller au fait quoi des anthropologues sociologues à aller au sein des communautés à faire ressurgir au fait quoi des petits détails pour que le jugement puisse se faire. Donc il a fallu que la CPI signe des alliances avec le projet que porte Julien Sirossi et autres. Donc voilà. Comment est-ce que le bureau de déposition peut signer des alliances au fait quoi? Mais moi, je pense que cela va se passer dans l'élaboration de nos contrats. Et voilà.
Comme tu viens de le dire, avec les contrats, ça intéresse et c'est ce qui fait aussi le bureau de déposition. Parce que ce qui nous unit, d'abord, c'est ces contrats qui sont là, que nous avons essayé de signer en co-auctorialité. Devant le public, ou comme on l'avait fait la dernière fois, quand on était à Paris, on a lu nos contrats et on les a signés encore devant d'autres personnes pour qu'ils puissent comprendre c'est quoi justement le bureau de déposition et comment ça fonctionne. Surtout en parlant de ces contrats qui nous unissent, parce que ce n'est pas justement à vouloir raconter ces récits, à vouloir écrire des lettres qui sont là à part. Parlant des récits, il y a beaucoup qui peuvent raconter ces récits, mais le bureau de dépôt, ce n'est pas là juste à raconter des récits qui nous concernent. Nous essayons d'œuvrer dans le sens de l'art et en matière de contentieux et dans le droit encore. Nous essayons d'être dans le contentieux, d'être là à réclamer quelque chose, pas à attendre. Nous ne nous victimisons pas. Nous essayons d'attaquer, nous essayons de réclamer ce qui nous est de droit. Par exemple, quand on nous parle de la création artistique, c'est une liberté fondamentale que chaque humain
n'importe quoi, ça, que ce soit ton statut, que tu sois demandeur d'asile, que tu sois un Français, que tu sois par ailleurs autre chose, mais que tu es humain, que tu as le droit de créer, c'est une liberté fondamentale, c'est une liberté fondamentale que je trouve qui est bien encore entre nous. Par exemple, si on a signé des contrats de co-auctorialité avec entre nous et qu'on a signé avec des contrats avec d'autres institutions, c'est parce que nous croyons à ce que nous faisons. Nous n'attendons pas juste qu'on essaie d'apprécier ce que nous faisons, mais on croit en ce que nous faisons et nous le savons que nous sommes dans nos droits à vouloir le faire encore. Ouais. Dans ce contexte, je vais juste dire avec le bureau des positions qu'il faut rappeler qu'il y a 8 jours dans un squat, qu'il faut toujours rappeler encore. Ouais. Ça, c'est le patio solidaire. C'est un espace de vie pour des personnes qui sont là, qui abritent. Il y a environ 70 personnes qui abritent le lieu. Mais il y a que quelques personnes qui sont là, environ 10 personnes qui essayent d'œuvrer dans le champ de l'art, dans le bureau des positions. Et nous essayons de continuer encore dans les mêmes idées. Juste pour rebondir avec ce qu'il vient de dire, je suis entièrement d'accord avec l'idée d'Aliou. Pour vouloir faire quelque chose, ouais, c'est à la base que ça commence d'abord. Ouais. Comme il a dit dans nos dialectes, dans nos langues en poulard, donc, c'est à la base d'abord, tout a commencé là. Ouais. Parce qu'on a eu des idées, des initiatives pour vouloir faire quelque chose qui est là, quoi. Le bureau de position qu'on a écrit, qu'on a... Au début, on faisait que juste des lettres, qu'on se disait, ouais, c'était... Au début, on disait que c'était des plaintes. Nous essayons, et chaque personne d'entre nous essaie d'écrire et adresser sa lettre à une personne qui trouvait, ouais, d'autres ont écrit, ouais, qui adressaient même au président de la République française. D'autres ont écrit aussi qu'ils adressaient leurs lettres au président de la Guinée ou à la jeunesse ou à l'Union européenne. Au fur et à mesure qu'on s'est trouvé encore, qu'on s'est retrouvé dans ces idées, on se dit, ouais, c'est plus des plaintes, mais c'est des requêtes. Et avec ces requêtes, on s'est concerté, on s'est dit, ouais, justement, chaque idée, ça concerne chaque personne. Et ce qui vient au fond de son cœur, au fond de lui, et nous essayons de donner ce que les personnes qui n'ont pas la parole, qui n'ont pas le courage de parler devant d'autres personnes, des personnes de sans voix qui n'ont rien à dire, qui ont quelque chose à dire, je m'excuse, mais qui ne peuvent pas le dire. Et nous nous mettons à leur place. Tout ce que nous disons, nous le parlons à la place des personnes qui n'ont pas pu traverser la Méditerranée pour venir nous rejoindre ici, qui n'ont pas pu traverser le désert pour venir nous rejoindre là où nous sommes. Et nous nous mettons à leur place comme on l'a vécu encore. Mais ce n'est pas juste une question de raconter les récits qui se sont passés par antérieure. Ils peuvent le faire. Il y en a beaucoup de migrants qui peuvent le faire, ouais, raconter le récit. Mais nous, on n'est pas là juste pour raconter ces récits qui sont là. Mais nous œuvrons dans le sein de l'art. Et nous avons essayé de signer des contrats de co-auctorialité avec beaucoup d'instituts, avec beaucoup de personnes. C'est juste ça, j'ai un peu de rappel, ouais.
J'ai entendu comment est-ce qu'on pourrait créer des alliances à partir d'un contrat. Je crois qu'on n'a pas besoin d'un contrat pour créer des alliances, mais c'est justement quand je dis que c'est peut-être intéressant de définir des buts, disons, collectifs, peut-être dans ou entre vous tous qui sont partis de cette œuvre. En les formulant, ça peut créer une ouverture vers d'autres disciplines, vers d'autres partenaires, vers des gens qui veulent faire des alliances, parce qu'ils partagent peut-être aussi les mêmes idées, les mêmes visions. Et je crois qu'hier aussi, quand les étudiants sont venus faire une présentation sur les droits fondamentaux, ils disaient à un certain moment que ce sont aujourd'hui souvent des coquilles vides. on ne le voit pas seulement peut-être sur le terrain de tout ce qui est immigration, mais aussi au niveau du climat. Et je crois que quand même, il y a beaucoup de gens qui ont vraiment envie de remplir ces coquilles vides par la pratique et aussi plus dans des situations plus singulières. Et je me demande si peut-être aussi l'exercice du contrat pourrait être un moment pour... parce qu'aussi ces droits fondamentaux, ils sont aussi souvent écrits de manière très méta-level, un peu ouvert. Et si on pourrait, pour les remplir, peut-être dans le cadre d'un contrat comme ceci, définir ce qu'on entend par exemple par liberté de création, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, comment on le traduit dans la collaboration qui se crée ici. Donc voilà, je crois que ça pourrait être un exercice et aussi un exercice de travail en le mettant en perspective avec d'autres droits par exemple, parce qu'hier on a aussi parlé de la liberté de la création vis-à-vis peut-être les droits d'auteur, où les droits d'auteur portent parfois atteinte à la liberté de la création. Donc je crois que si on rentre dans un exercice comme ça, c'est ça que je comprends quand on dit travailler le droit et essayer vraiment de l'interpréter de façon peut-être créative et de travailler avec. Donc je ne sais pas si c'est quelque chose.
Je me permets de remercier tout le monde et d'interrompre cette première phase du plateau radio pour ouvrir à des questions peut-être qui seraient dans l'air autour là, de nous.
Moi, j'avais une question du coup du public par rapport à cette histoire de droit où en Angleterre et en France, par exemple, la jurisprudence, si je comprends bien, fonctionne pas de la même manière. Est-ce que vous avez envisagé du coup d'avoir un groupe cousin qui ferait la même chose que vous à un autre endroit pour voir dans un autre système ce que ça pourrait créer ? Et en fait, je sais pas si je me trompe, mais moi, je fais partie du monde de la construction, et par exemple, donc, je ne suis pas sûre d'être juste, mais la construction en paille, par exemple, en paille porteuse, a été, enfin, c'est le droit à construire en paille porteuse en France, il me semble, a évolué grâce à des choses qui se sont testées en Angleterre, justement parce que des chantiers ont fait jurisprudence. Enfin, voilà. Et c'est à vérifier, mais je me demande du coup de quelle manière vous pourriez avoir des jumelages comme ça dans des systèmes différents, et est-ce que ça pourrait fonctionner?
Bah, je pense que dans le cas des précédents ou des jurisprudences, de toute façon, si on trouvait une œuvre, qu'elle soit anglaise, anglaise, américaine, enfin peu importe, elle servirait à la requête de l'avocate au sens où il est question aussi là d'une œuvre de l'art et de la recherche. Donc c'est pas exclusif quelque part aux droits et aux œuvres produites sur le sol français. Et après, il y a un autre élément, c'est qu'en fait, nous, pour l'instant, on n'est pas encore dans une dynamique de... comment dire... de dupliquer. Enfin, on part du principe quand même que c'est une œuvre originale. Et pour qu'une œuvre soit originale, en fait, elle ne peut être composée que de subjectivités qui se réunissent pour créer. Et par exemple, on a eu des cas de propositions de gens qui nous ont dit, mais est-ce qu'on pourrait déplacer Bureau des dépositions et le faire ailleurs? En fait, ça ne serait plus une œuvre, ça deviendrait un objet industriel. Donc, on a un peu du mal avec cette dimension-là. Par contre, cette pratique des plateaux radio et de la métaclinique du droit, c'est pour nous une manière d'inviter et de mettre à découvert nos manières de faire pour que peut-être d'autres gens s'en saisissent. Et effectivement, peut-être qu'il faudrait qu'on traduise ces éléments-là dans d'autres langues, en anglais, pour voir si dans les pratiques anglophones partout sur, dans le monde, il y aurait une initiative, parce qu'il y a des questions de migration, pas uniquement en Angleterre, mais aux États-Unis, en Australie, etc. Il y aurait peut-être des cas qui se lèveraient sur les fondements d'une œuvre originale, qui ne serait pas le Bureau des dépositions.
Je voudrais juste faire un pas de côté, bref, pour dire qu'au Bureau des dépositions, nous nous sommes saisis du droit comme un lieu de création et comme un lieu aussi à partir duquel réfléchir à nos vies et à nos liens. Mais que le droit, et pour rebondir sur la question des droits de l'homme, pour moi n'est pas l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire que les droits, dès qu'on revendique ou qu'on obtient des droits, le droit est toujours à la fois inclusif et exclusif. C'est-à-dire que dès qu'un droit apparaît, il définit un périmètre, et dans ce périmètre, il y a un dedans et un dehors. Et donc, le droit, par ailleurs, est issu d'un héritage moderne, libéral, qui repose beaucoup sur la question des droits individuels, et qu'au-delà des droits, au-delà des batailles dans le droit qui sont fondamentales et qui nous intéressent et que nous souhaitons aussi étudier et puis prendre part dans ces scènes juridiques, il y a aussi la vie qui est irréductible à la question des droits, et l'art aussi, dans ce que disait Marie, les subjectivités à l'œuvre ne se réduisent pas à une question que de droit. Et au Bureau des dépositions, à la fois le droit est notre objet, et notre arme, et notre inquiétude. Mais au-delà de ça, le Bureau des dépositions, c'est une œuvre dans laquelle il y a des vies qui se rencontrent et qui ne se résument pas à des catégories juridiques. Et donc, c'est aussi ça qui est quelque chose qui est intéressant, c'est qu'à la fois, on travaille depuis le droit, mais aussi nos subjectivités visent à excéder le droit, c'est-à-dire pas imaginer qu'il y a un dehors, mais on excède, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui dépasse, qui j'espère... est indéterminable et qui ne pourra jamais se réduire à une définition, à une norme, à un droit, quelque chose qui échappe systématiquement à tout. Alors c'est peut-être très abstrait, mais pour moi c'est important de le rappeler, que notre idée n'est pas de nous enfermer dans des droits, mais de partir des droits pour vivre plus, mieux, quoi. Voilà.
Et peut-être je peux juste rajouter un élément en complément de ce que dit Sarah aussi, c'est que, en fait, ce dont on parle, par exemple, et qui a été bordé par vos apports à la, en tant qu'étudiant en droit, et aussi par cette question du contrat avec Julie, c'est que, effectivement, il y a une dynamique qui va vers la scène institutionnelle judiciaire. Mais en fait, elle est très longue. Ce que nous ont appris les étudiants, c'est qu'un procès, c'est 2 ans, qu'il y a des jeux d'appels, etc. Et que dans notre cas, ça pourrait prendre entre 10 et je ne sais pas combien d'années. C'est pour ça aussi que le droit, probablement, a cette espèce de couleur un peu conservatrice, parce qu'en fait, il est toujours très en retard par rapport à la vie, en quelque sorte. Mais ce que disait Julien Serroussi, et que nous, on ressent aussi au Bureau des dépositions, c'est que on dit que c'est une œuvre processuelle infinie, parce qu'en fait les lettres de déposition, on a besoin de pas être d'accord ensemble, et on les rebat toujours, et en fait on les modifie de performance en performance, donc c'est jamais la même performance. C'est pour ça que on a besoin d'être dans le temps et dans un temps indéterminé tous ensemble. Et en fait, quand on débat de ces lettres et qu'on n'est pas d'accord, on fait ce qu'on appelle une palabre. Et Jérôme Nottinger du 1 ensemble, qui est venu nous voir la dernière fois, disait, mais en fait la traduction de palabre, c'est le procès coutumier. C'est un procès coutumier, en fait. Et Julien Serroussi disait lundi que eux, au tribunal de La Haye, avec Franck Lebovici, ils avaient essayé d'amener une réflexion depuis ces cours qui sont en fait qui ont une couleur un peu, enfin, colonialiste, c'est-à-dire c'est vraiment les pratiques du droit et de la justice occidentale qui en plus juge systématiquement plutôt des cas du Sud. Et il disait en fait aussi peut-être aller regarder les autres types de justice qui ont cours, et il parlait par exemple de la justice du Gacaca, ce qu'on est allé regarder, et qui en fait a été restaurée après le génocide rwandais, en disant en fait ça va être terrible, il faut absolument qu'on trouve d'autres manières d'instaurer la justice. Parce qu'en fait, les modèles qu'on a sont trop lents Et c'est trop grave, en fait. Et moi, j'ai la sensation que ce qu'on pratique aussi au bureau des dépositions, c'est une forme de justice gachacha ou je ne sais quoi, qui serait, en fait, de nous prendre en main cette question d'un vide de justice pour, en fait, nous enseigner ensemble qu'il est possible de sortir des catégories qu'on subit et de peut-être... alors, on n'est pas d'accord, réparer, on ne sait pas si on est pour une justice réparative ou transformative, etc. Mais en tout cas, acter quelque chose à cet endroit-là, quoi.
Bien, donc on va aller en deuxième pause. On peut souffler 5 minutes. Et après...
C'est fini.
Ah d'accord. Maintenant, c'est la question. C'est la dernière pause, non?
Non, c'est fini.
C'est fini. Voilà, donc du coup, on donne la parole au public, c'est ça?
Ousmane, qu'est-ce qui t'arrive? T'es amoureux ou quoi?
Non, tu as tout mélangé avec toi. Parce que... on prévoit à 3 temps, on a dit normalement qu'on devrait donner la parole.
Mais du coup, il n'y a pas eu.
Jim.
D'accord, ok. Donc on l'a fait tout en même temps.
Ouais, c'est ça.
Bien, merci de nous écouter. Merci de nous soutenir. Voilà ce qu'on avait à vous dire ce soir sur les ondes R22. Voilà, et on vous tiendra au courant de la suite très prochainement. Merci.